Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Isabelle Piper-Perrin, déléguée générale du mouvement international ATD Quart-Monde, une ONG française consacrée à l'éradication de la misère et à la dignité des pauvres, qui célèbre en 2017, en collaboration avec les Nations Unies et ONU Info, plusieurs anniversaires tout aussi symboliques les uns que les autres.
Cette année, elle est très importante pour ATD Quart-Monde à cause de plusieurs anniversaires. Le premier, c'est 100 ans de la naissance du fondateur d'ATD Quart-Monde, Joseph Rzeszynski, un homme né dans la grande pauvreté et qui, à cause de son expérience, de sa vie, de la vie de sa mère, savait que l'assistance ne pouvait qu'aggraver la situation des très pauvres et qu'il a voulu créer avec eux un mouvement qui promeut la dignité, les droits de l'homme et qui cherche la participation. C'est-à-dire, le fondateur d'ATD Quart-Monde nous disait notamment dans toutes ces actions de plaidoyer, qu'au fond, il ne cherchait pas à amener des nouvelles idées, et certainement pas des nouvelles idées à l'ONU, mais il cherchait à nouveau à amener des nouveaux partenaires, des nouvelles personnes. Le partenaire qui a toujours manqué pour penser avec lui l'avenir, l'économie, l'écologie. Et donc, ces partenaires manquants, c'est les personnes en situation de grande pauvreté, qui ont toujours été laissées derrière, qui sont la plupart du temps considérées comme n'ayant pas d'idées, pas d'intelligence, et qui ont une profonde intelligence et qui ont une connaissance qui doit absolument rencontrer celle des autres pour pouvoir bâtir une connaissance collective qui nous permet d'éradiquer la grande pauvreté. Donc l'anniversaire de la naissance de Joseph Rzeszynski et puis aussi les 60 ans de la création d'ATD Quart-Monde en 1957 dans un bidonville de la région parisienne où 250 familles étaient laissées dans la boue, dans le mépris aussi de leurs concitoyens et des institutions. Et donc c'est avec elle que Joseph Rzeszynski a créé ATD Quart-Monde en les appelant avant tout à se mobiliser, en leur disant « mais vous valez la peine, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez avancer, et votre voisin aussi vaut la peine, vous pouvez vous unir », et en appelant aussi d'autres personnes à rejoindre ces personnes en situation de grande pauvreté. Donc on peut vraiment dire que ATD Quart-Monde est né au cœur de la misère, et que ce sont des personnes en situation de grande pauvreté qui l'ont fondé.
ATD Quart-Monde est un partenaire donc des Nations Unies. ATD Quart-Monde a créé une journée spécifique pour lutter contre la pauvreté et la misère. C'était en 1987 avec un appel très important au Trocadéro. Alors justement, ce 30e anniversaire, finalement, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui ?
Alors c'est vrai qu'en 1987, il y a eu quelque chose de très novateur. Alors que c'était une année très politique aussi pour Joseph Rzeszynski avec l'écriture et l'adoption d'un rapport sur extrême pauvreté et précarité sociale et économique avec le Conseil économique et social français. Tout d'un coup, le 17 octobre 87, il réunit 100 000 personnes et il fait graver cette dalle sur le parvis du Trocadéro qui dit « là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». Et il est profondément novateur parce qu'il rend hommage aux personnes en situation de grande pauvreté. Il dit qu'il n'est plus possible qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Et c'est pour ça qu'il y a cette dalle inscrite dans le marbre. Et surtout, il dit, au fond, ces personnes en situation de grande pauvreté ne sont pas des mendiants. Mais ce sont les premiers acteurs des droits de l'homme. Ce sont les premiers acteurs de la paix. Ce sont des défenseurs des droits de l'homme. Ils agissent. Et c'est ça que le père Joseph Rzeszynski fait reconnaître le 17 octobre 87. Et il nous appelle tous à rejoindre ces premiers acteurs. Dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est vraiment complètement nouveau. C'est une journée qui a été reconnue 5 ans plus tard par les Nations Unies, comme la journée pour l'éradication de la pauvreté. Et donc, c'est quand même la première journée qui est vraiment née aussi du bas, qui est née, comme le mouvement ATD Quart-Monde aussi, est née au cœur de la misère. C'est une journée qui est née de personnes en situation de grande pauvreté qui se sont associées et d'autres qui les ont rejoints.
Aujourd'hui, les Nations Unies célèbrent chaque 17 octobre cette journée. Il y a des partenaires, il y a l'ONU, il y a aussi des missions permanentes, je pense à celle de la France et celle du Burkina Faso. Mais il y a aussi la volonté de faire évoluer cette journée. Vous parliez des droits de l'homme, donc ça c'est intéressant parce que pendant des années, la pauvreté a été plus vue peut-être sous le prisme social, économique ou psychologique. Aujourd'hui, en termes de défense des droits de l'homme, qu'est-ce qui a évolué depuis justement cet appel à l'action ?
Joseph Rzeszynski est aussi quelqu'un, et c'est ce qui est inscrit dans cette dalle du Trocadéro, qui a osé faire ce lien entre extrême pauvreté et droits de l'homme et d'affirmer que l'extrême pauvreté est une violation des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est de plus en plus reconnu. Il y a eu des principes directeurs extrême pauvreté et droits de l'homme qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2012 et qui l'affirment. Et donc ça, c'est un retournement complet de la manière de voir la grande pauvreté et de la voir comme une atteinte aux droits de l'homme. Et donc ça appelle tous les citoyens à suivre unir pour faire respecter les droits de l'homme de ceux qui, comme certains le disent, parmi les familles que nous connaissons, disent « mais au fond, les droits de l'homme ne sont pas arrivés jusque chez moi ». Et donc cet appel nous donne obligation de, et invite au fond tous les défenseurs des droits de l'homme à rejoindre ces acteurs-là, ces défenseurs des droits de l'homme souvent très méconnus que sont les personnes en situation de grande pauvreté.
Alors on le dit depuis 25 ans, donc cette journée est célébrée le 17 octobre. Depuis plusieurs années déjà, vous faites intervenir les principaux concernés. Souvent on parlait en leur nom. Aujourd'hui, les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté sont des témoins directs, des acteurs qui viennent, qui s'assoient à la table et qui parlent de leur vie. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vraiment ces acteurs-là sont représentés? Comment ça a évolué depuis une vingtaine d'années?
Dès le début, il y avait la volonté qu'au cœur de cette journée soit vraiment la possibilité pour les personnes en situation de grande pauvreté de prendre la parole et d'exprimer pas simplement des témoignages ou pas simplement de parler de leur propre vie, mais d'exprimer ce qu'elles avaient travaillé avec d'autres sur ce qu'elles vivent pour le faire comprendre à ceux qui étaient là autour d'elles. Et ça, ça doit vraiment rester au cœur de cette journée. Parce qu'on dit très souvent que les personnes en situation de grande pauvreté sont sans voix. Ils ne sont pas sans voix, il manque de gens pour les écouter. Et c'est autre chose. Le 17 octobre, c'est un jour où on s'organise pour que les personnes en situation de grande pauvreté prennent la parole et que des gens les écoutent. Et on l'a dit tout à l'heure dans l'événement qui nous rassemblait aujourd'hui, c'est que, au fond, cette journée nous donne du courage. Les efforts que nous faisons toute l'année, les combats que nous menons toute l'année, ce jour-là, nous pouvons l'exprimer avec force et des gens sont là pour l'entendre et pour dire aussi qu'ils se mobilisent avec nous. Et cette journée nous donne beaucoup de courage parce qu'elle nous honore.
Alors vous parliez justement lors de cet événement d'un problème d'abord d'obligation morale au-delà des droits de l'homme et également vous parliez du problème de la dignité et surtout du fait qu'on dénie aux pauvres finalement le statut d'êtres humains. Donc est-ce qu'aujourd'hui ce genre de témoignage est à même d'inverser un peu cette tendance et qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut aller au-delà de ça pour vraiment faire que ce regard change?
Moi, je pense que si ce regard continue, c'est parce qu'en fait, on ne se connaît pas et on ne se rencontre pas. Et l'espace du 17 octobre est un espace exceptionnel pour se rencontrer et pour découvrir cette intelligence qui est là et qu'on ignore. Je pense à Monsieur Parfait de Bangui qui nous racontait comment un jour il allait dans une réunion de sa communauté et puis au fond, on lui a dit « mais non, toi, tu n'as rien à dire ». Et il dit « je suis rentrée avec mon intelligence inutile ». Et c'est ça, partout dans le monde, les personnes en situation de grande pauvreté sont là et ont expérimenté toute leur vie durant. « Non, toi, tu ne vaux rien, parfois à l'école, tu n'es pas assez intelligent, tu seras comme ton père ou comme ta mère, ou c'est ceci, c'est ça ». Et au fond, cette humiliation permanente fait qu'à un moment donné, toute cette intelligence, elle reste enfermée en vous. Il n'y a plus d'espace pour qu'elle puisse sortir. Et c'est ça que le 17 octobre permet, et d'autres espaces qui sont créés, où justement les personnes en situation de grande pauvreté peuvent se retrouver avec d'autres, peuvent réfléchir sur leur vie et peuvent exprimer toute cette intelligence qui est là et qui est absolument une ressource qui n'est pas assez utilisée pour faire face aux grands défis d'aujourd'hui. Je veux dire, on parle des grands défis au niveau de l'environnement, mais qu'est-ce que ont à nous apprendre les familles que nous connaissons aujourd'hui qui habitent au bord des décharges, qui habitent dans des lieux inondables et qui depuis des années et des années essayent de prendre en charge leur environnement? Qu'est-ce qu'ont à nous apprendre sur l'économie? Aujourd'hui, il y a moins de travail. Alors, comment on imagine l'avenir? Mais pourquoi on ne l'imagine pas avec ceux qui, depuis des années et des années déjà, qui ont parfois toujours connu, ont souffert du chômage, se sont sentis inutiles ou ont fait des travaux pénibles et difficiles? Donc c'est ça, il y a une intelligence à cause de l'expérience que vivent les gens qui est absolument indispensable aujourd'hui. On parle de communication, mais nous, quand on voit comment fonctionnent nos amis à Bukavu, il n'y a pas l'électricité partout, évidemment, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas des ordinateurs partout. Mais quand on envoie un message, il y a des jeunes qui l'impriment et qui vont de maison en maison pour la partager. C'est le sens de notre appel en 2017, c'est de dire que le monde fait face à des défis sans précédent. Et on ne peut se passer de l'intelligence de personne. Et pour faire face à ces défis, il y a cette intelligence des très pauvres qui, jusqu'à aujourd'hui, est une ressource qui n'a pas été assez utilisée pour y faire face. C'est une violence pour les très pauvres de ne pas pouvoir exprimer tout ce qu'ils sont, mais c'est une violence pour le monde aussi que l'on se prive de cette source pour avancer. Et c'est vraiment le sens de notre appel, c'est de dire, nous, nous appelons pour dire, nous voulons vraiment rejoindre ces personnes et ces familles en situation de grande pauvreté, nous voulons nous unir avec elles, nous voulons nous joindre joindre à elle, parce que nous pensons vraiment que c'est ensemble que nous pourrons bâtir un savoir utile pour que le monde ait un avenir.
Lors de cet événement aujourd'hui, on a parlé des différentes dimensions de la pauvreté. On a parlé du problème parfois plus important que rencontrent les jeunes filles ou les femmes, l'accès à l'éducation, l'accès au savoir. Est-ce que là également, il y a des éléments qu'on peut reprendre? Est-ce que les Nations Unies, est-ce que d'autres partenaires avec ATD Quart Monde peuvent faire avancer la réflexion et surtout l'action, puisque c'est dans cette action que vous inscrivez?
Vous parliez de l'éducation, par exemple. ATD Quart Monde, dans le cadre de l'évaluation des objectifs du millénaire, a travaillé avec 2000 personnes, dont beaucoup en situation de grande pauvreté, pour évaluer l'impact de ces objectifs. Et nous avons beaucoup travaillé sur la question de l'éducation. Et ce qui est ressorti avec beaucoup de force, c'est la nécessité de bâtir de vrais partenariats, une collaboration entre le monde de l'éducation et le monde des très pauvres. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous connaissons des enfants qui arrivent pleins de joie à l'école, là où il y a des écoles et où c'est possible qu'ils soient scolarisés, pleins de joie à l'école le premier jour et qui, après quelques jours, se sentent complètement laissés de côté parce qu'au fond, ils sentent qu'il y a un énorme fossé entre le milieu qui est le leur et ce monde de l'école. Et ils sentent aussi que leur famille, leur milieu n'est pas attendu à l'école. Et moi, je pourrais vous donner un exemple, c'est de la Suisse où je me souviens d'une mère de famille, quand j'étais volontaire dans son pays, en Suisse, qui me disait, moi, j'ose plus aller à l'école parce que quand j'y vais, on me dit toujours des choses difficiles sur mes enfants. Jamais rien de positif sur mes enfants. Elle me disait, et je vois bien que les enseignantes, elles savent pas quoi me dire et qu'elles ont peur de moi. Et tout ce travail autour de l'éducation a mis surtout ça en évidence, c'est qu'il faudrait pouvoir vraiment bâtir une collaboration entre le milieu, les familles et le monde de l'école pour que les enfants puissent vraiment y apprendre. Que là aussi, qu'on puisse tenir ensemble le milieu et le monde de l'école ensemble.
Alors justement pour ce 17 octobre qui sera particulier puisqu'on le rappelle donc 3 anniversaires, les 100 ans de la naissance du fondateur de la ATD Quart Monde mais aussi les 30 ans de la journée contre la misère, les 25 ans de la journée contre la pauvreté donc avec l'ONU. Il y a un appel à l'action. En quoi consiste cet appel à l'action et d'ici au 17 octobre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette action soit développée et renforcée?
Alors, faire signer l'appel à l'action, parce qu'on voudrait être très nombreux. Donc, si on va sur le site Stop Pauvreté, Agir tous pour la dignité, on peut découvrir une mosaïque. Et cette mosaïque, ce sont toutes les personnes qui ont jusqu'à présent accepté de signer cet appel à l'action. Et il y a à la fois la directrice de l'UNESCO, mais aussi un militant des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté de Tanzanie, qui sont là côte à côte. À la fois des personnalités, des responsables politiques, des responsables d'associations, et aussi des simples citoyens qui disent non, moi aussi, je refuse la misère et je veux vraiment m'associer avec ceux qui aujourd'hui vivent les conditions les plus dures de pauvreté. Et cette mosaïque, pour nous, elle a beaucoup de sens parce qu'elle montre tout ce courant du refus de la misère à travers le monde qui s'exprime à travers ces différents visages et les messages que les uns et les autres ont accepté de laisser. Et donc, moi, j'aimerais inviter vraiment chacun, d'ici le 17 octobre, à aller sur ce site et à mettre une photo. C'est important, parfois des gens ne mettent pas de photos, on y a le droit aussi, mais quand on découvre cette mosaïque avec les photos, on a tout d'un coup une vision de ce qu'est ce courant du refus de la misère, incarné vraiment dans des personnes qui agissent et qui se mettent ensemble.
Voilà, c'est avec Isabelle Piper-Perrin, déléguée générale du mouvement international ATD Quart Monde, que se referme Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.